Bonsoir, nous sommes mardi, il est
Mardi,
21h et c'est
21h.
l'heure du dojo.
Dojo bar.
Voilà, bonsoir à tous. Oh. Bonsoir Méduse, puisque Méduse malheureusement n'est pas là. Bonsoir nos chers invités. Ce soir, nous recevons donc Cyrard, notre maître à tous, la quéquette la plus grosse du monde.
Ah, et merci d'y faire honneur.
Oui, non, mais tous les jours. Nous recevons Kaliken de DS in Paris, qui nous a fait l'honneur de revenir pour troller avec nous.
Et oui, I'll be back.
Voilà, et tout à fait. Et nous recevons Antix, Antix l'homme multifacette, le champion du traductotron, l'homme reverso.
L'homme reverso.
qui t'a reverso vivant, mais dans l'autre sens.
Je traduis reverso, c'est une compétence très appréciée.
Ouais, non, mais c'est un truc complètement ouf. C'est-à-dire que dans les entreprises qui utilisent vraiment reverso, c'est une compétence complètement indispensable. Et d'ailleurs, qui reviendra pour le deuxième traductotron. Il y en aura un deux.
Ah.
On va essayer. Ça reviendra. Voilà, et donc, cette émission que nous allons placer sous le signe du troll. Est-ce que tu veux fermer ta gueule, mon chat?
C'est dur, parle de moi.
Troll de compète.
Ah non, mais le chat, tu vas te prendre une tatane dans la gueule, hein, mon chéri, parce que tu as commencé à me casser mon bon traîneur.
Moi, je vote pour le chat pour dire que c'est le meilleur troll pour l'instant.
C'est bon, le troll du chat, donc, était plutôt pas mal. Donc, nous allons commencer par parler du gamepad, savoir si c'est une vraie innovation, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul dessus, ou si c'est un troll éhonté de Nintendo et un gros four qui fonctionnera jamais. Vous avez tous, à mon avis, beaucoup de choses à dire sur le sujet, que vous ayez joué avec le gamepad ou non d'ailleurs. Il y a des gens qui ont un avis, même s'ils l'ont pas essayé. Et en deuxième partie d'émission, nous aborderons un sujet un peu plus épineux, toujours un topic troll. En fait, on a deux topics à troll cette semaine. Que peut faire Nintendo pour remonter la pente?
J'étais à 4-4.
Oui. 4-4, je viens de la comprendre. Il m'a fallu 2 secondes pour réaliser à quel point c'était mauvais.
Voilà. Bon, j'aime bien.
Mais nous allons commencer par notre tour de table de.
C'est tout.
Il met des notes en fait. C'est comme à l'école des fans, si tu veux. On tend des petits panneaux, mais personne nous voit en fait. Donc c'est un peu con. On va commencer par notre petit tour de table de l'actu. Cyrard, est-ce que tu as une petite actu? Parce que tu es arrivé un petit peu tard. Je sais pas si tu avais quelque chose ou pas.
Commence et je trouverai après.
D'accord. Alors je vais pas commencer, du coup je vais laisser la main à Antix qui a un petit truc à nous dire.
Alors moi je voulais parler du mode qui s'appelle Project M, qui en est à sa 3e version. Puis de mémoire décembre ou janvier, actualité récente on va dire. Mais moi j'étais plus intéressé par vous parler du président de Sony qui se faisait virer du Miiverse que ça. Et donc ce mode donc reprend pour base Brawl, enfin Super Smash Bros. Brawl, et le modifie pour le rendre, on va dire, plus compétitif. Il y a quelque chose que beaucoup de joueurs de Smash Bros. Melee reprochent à Brawl, c'est qu'il est un peu mou du bide, et un petit peu lent, et surtout pas très bien équilibré au niveau des personnages. Ce mode fait, c'est donc reprendre le gameplay pour le rendre plus vif, plus proche de ce que finalement les joueurs de Melee aimaient dans Melee, mais en utilisant le contenu de Brawl. Et les mecs sont quand même allés extrêmement loin dans leur démarche, c'est-à-dire que plutôt que juste et la physique et un petit peu les personnages, ils ont carrément refait certains personnages.
Ils ont reprogrammé intégralement certains personnages.
Alors, ils sont quand même beaucoup basés sur ce qui existait déjà, mais par exemple, maintenant Samus, je crois qu'avec une de ses provocations, au lieu d'utiliser son canon peut tirer de la glace comme dans le jeu, ce qui n'était pas le cas dans Smash Bros en général. Ils ont aussi fait ce qui va être fait dans le prochain, c'est-à-dire que les personnages qui se transformaient sont maintenant complètement séparés. Pour le dresseur de Pokémon par exemple, c'est impossible de passer de Dracaufeu à Herbizarre à Carapuce.
D'accord, t'as un dresseur Pokémon, un dresseur Carapuce, un dresseur Herbizarre, un dresseur...
C'est ça, c'est les personnages à part entière qui ont du coup gagné des nouveaux coups pour compenser le fait qu'une de leurs attaques spéciales qui leur permettait de changer ne sert plus à rien à l'heure actuelle. Et il y a un gros boulot dessus, en tout cas au niveau du mode. Ils ont même refait quelques terrains. Ce que par contre je trouve un petit peu dommage, puisque les terrains un petit peu fantasy sur lesquels il y avait un peu d'aléatoire, bah, du coup on peut plus jouer avec. C'est que des terrains avec une ou deux plateformes. Donc c'est sympa pour la compétition, mais quand tu veux jouer un peu pour le plaisir, on se fait un peu chier.
Ouais, c'est un peu comme les compètes qui ont lieu seulement sur le Final Smash, où il n'y a pas de plateforme et où c'est vraiment juste du 1 contre 1. Voilà, c'est un peu chiant, quoi.
C'est un peu ce qu'a fait Sakurai avec le fort, parce que va faire Sakurai dans le prochain Smash Bros avec le mode destination finale pour les terrains. Et le dernier truc qu'ils ont fait qui était vraiment sympa pour le coup, enfin pour ceux qui aimaient ces personnages, c'est qu'ils ont ramené Roy et Mewtwo dans le rôle. Et du coup, c'est des personnages dont les animations ont été refaites en se basant sur celles de Melee, mais qui ont aussi été énormément modifiées. Et le modèle 3D a même été refait complètement, hein, parce que j'avais pas l'impression qu'il ressemblait beaucoup à celui de Melee. Gros travail sur ce mode.
Dans les modes, oui, il y a des trucs assez impressionnants. Les modes de Mario Kart sont en général très impressionnants, même si c'est que des courses modifiées. Les modeurs ont vraiment poussé le truc assez loin. Mais c'est vrai que là, je pense que ça remporte le pompon, hein, parce que aller jusqu'à effectivement séparer des personnages, c'est quand même un sacré boulot derrière pour bidouiller le code, quoi.
Ouais, non, il y a eu, enfin, l'impression qu'il y a eu pas mal de beaucoup de travail. Je sais pas de quand ils ont commencé exactement. Je crois que ça date du moment où on a pu commencer à utiliser l'action replay via la Wii piratée, donc ça doit être je pense en 2008 ou en 2009. Bon, en tout cas, les premiers modes de Brawl datent de ce moment-là, si je me souviens bien. Enfin, de la sortie du jeu au moins. Donc gros boulot, et alors pour y avoir joué, comme j'ai dit, bon, le fait qu'il y ait beaucoup de terrain très plat où il se passe pas grand chose, c'est un peu chiant. Et pour ceux qui apprécient les personnages de Brawl mais qui voudraient jouer avec la nervosité de Melee, c'est un bon compromis, même s'il y a des choses que j'ai pas spécialement apprécié dans le gameplay, enfin des trucs qui me paraissaient un peu étranges et qui font quand même que je préfère continuer à jouer à Melee même en 2014.
D'accord. Kaliken, tu voulais nous parler un petit peu du dernier Nintendo Direct sur Mario Kart 8,
ouais,
si je dis pas de bêtises.
Très rapidement.
Alors, on a déjà fait en off toutes les blagues concernant le fait que Iwata a de nouveau un parapluie dans le cul, donc on va pas les refaire maintenant. Voilà. On va évacuer ça tout de suite.
Bah, d'autant plus qu'on le voit pas énormément, Iwata, dans ce Nintendo Direct, à part au début et à la fin. Si je ne m'abuse. En fait, c'était plus pour effectivement, donc c'est une vidéo qui montre un peu les nouveautés sur Mario Kart. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette vidéo, y compris dans les derniers Nintendo Direct, c'est ce côté un peu on fait de plus en plus n'importe quoi, enfin on fait des trucs bien marrants, un peu délire, et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils avaient tous pris de la drogue pendant ce Nintendo Direct.
Drogue.
Et de la bonne.
Mais ouais, de
elle
la très très forte. Parce que déjà, qu'est-ce que c'est que ces voix, les voix qui commentaient les trucs, j'ai pas compris si c'était des voix digitalisées ou des mecs venus de Neptune ou je sais pas quelle planète.
Bah, je croyais que c'était des Québécois, moi.
Ouais, mais c'est quand même, enfin c'était vraiment vraiment chelou.
Et là, il prend le virage à la corde.
Tout à fait.
Admirez-moi ce châssis, qu'est-ce qu'il est beau.
Attention à la carapace bleue, attention.
On dit ouais. La coquille bleue.
La coquille, le blue shield, comme on dit. Et donc voilà, enfin bref, moi j'ai trouvé ça plutôt sexy, puis l'annonce qu'il sera disponible avec, enfin que pour tout Mario Kart 8 acheté, un jeu sera offert. Parmi
attends,
une sélection de...
Attention, dans la limite des stocks disponibles.
Tout à fait, tout à fait.
Il y aura Sonicless World.
Ouais.
On a dit des jeux.
Si, je peux si je peux vous conseiller un truc, achetez Sonicless World, mais plein prix. Parce que c'est le genre de truc, quand tu fais ça, il faut que tu le sentes passer. C'est important. Et en liquide. Et en liquide, parce qu'il faut que tu sentes le pognon qui fout le camp. C'est vachement important, ça.
Ouais, et puis comme ça, tu pourras le revendre, parce que là, c'est que du démat, hein, pour l'off Mario Kart.
Oh merde, non, c'est nul.
Ah, ouais.
Enfin, remarque, le Sonic Lost World en démat. Ah non, tu peux pas te défouler sur la galette du jeu. Non, c'est nul.
Non, tu l'auras à vie sur ton compte Nintendo. Les gens sauront que tu as acheté Sonic Lost World.
Non, mais ces dernières années, ce sera fait bien violer aussi, hein, Sonic, quand même. Hein. Quand on y pense, loup-garou, il embrasse des femmes, il fait des RPG pourris. Il aura pris trop. Tout,
d'ailleurs, à propos de Sonic, alors, je fais une petite digression, je pense qu'il le mérite. je fais une petite digression. Il y a eu à la dernière AGDQ, donc l'Awesome Game Done Quick, l'événement qui est organisé par Speed Demo Archive pour faire du speedrun. Il y a eu un speedrun de Sonic 06, donc le fameux Sonic qui est sorti en 2006 sur Xbox 360 et PS3.
C'est le truc RPG là où à la fin il.
Non, c'est le truc à moitié plateforme, moitié pourri, moitié
bug.
Moitié bug. bugs. Et alors le score qu'ils font au final, le temps qu'ils font les mecs est juste hallucinant. Et en réalité, quand ils comptent sur la ROM, ils passent plus de temps en temps de chargement qu'à vraiment jouer. C'est pas mal.
Alors, en plus, le jeu était tellement buggé qu'il sautait, je crois, les trois quarts du jeu.
Il saute les trois quarts du jeu en rechargeant je sais plus quelle cinématique à un endroit. Enfin, c'est complètement hallucinant.
Il devait faire un truc extrêmement compliqué. Je crois qu'il devait amener un PNJ près de l'eau pour qu'il puisse mourir, ce qui lui permettait de gruger le truc. Enfin, c'était n'importe quoi.
C'était le grand n'importe quoi, mais c'était vraiment très amusant à jouer. C'était très 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 amusant à regarder en tout cas. Pour la petite dernière, alors sauf si Syrah a quelque chose de dernière minute, mais je suis pas sûr pour l'instant, il maintient le suspense.
Alors je suis en train de lire des deux jeux hebdo pour savoir ce qu'il y avait comme dans l'actualité, parce que y a pas grand chose en ce moment.
Bon bah c'est pas grave.
Non mais par contre je voulais faire juste un truc parce que je suis en train de me dessécher, mais j'ai perdu mon décapsuleur encore.
Et merde, non mais t'as Alzheimer ou quoi là, ça y est.
Mais c'est un décapsuleur magique. Ah ça y est, j'ai trouvé.
Bon alors vas-y.
Rien sous la main.
Ah. Ça fait du bien.
Non, hop. Ah, merde, c'est
bordel. Il va noyer son micro, c'est dans deux secondes, tu vas entendre. Ça y est, il a noyé son micro.
Bonne chimée.
Bref, moi je vais vous parler d'un truc rigolo. Il y a Can Games. Alors Can Games, vous ne connaissez peut-être pas. Can Games, en fait, c'est une.
C'est une boutique à Cannes.
C'est pas une boutique à Cannes, parce que c'est écrit Cannes comme Judge This Cannes. C'est l'œuvre d'un seul homme qui s'appelle Kevin Hanley, qui est un passionné de NES depuis qu'il est tout petit, et qui a décidé en 2009 de créer une petite société qui s'appelle donc Can Games. Et qui produit des jeux NES depuis 2009. Alors, il a notamment produit le Ultimate Frogger Championship Edition, qui est en fait le jeu Frogger, enfin une adaptation du jeu Frogger sur NES, mais avec un mode championnat, c'est-à-dire avec un comptage de score un petit peu particulier. Il a adapté le Sneak and Peek de l'Atari 2600 sur NES. Il a fait aussi deux jeux inédits, qui sont Study Hall et Unicorn, sur NES, qui sont disponibles sur retrousb.com. On peut acheter des jeux NES neufs, et tout le packaging est fait comme à l'époque. Et il a décidé il y a quelque temps de s'attaquer à un portage de Leisure Suit Larry, qui est le jeu, l'aventure interactive érotique, enfin érotique, faut le dire vite quand même, de Sierra, donc qui est à l'origine un jeu qui existait qu'en mode texte en 1981, qui a été réadapté en 1987 en mode aventure semi-texte, semi-graphique. Sur Amiga et Apple II, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est cette version-là, parce qu'il y a eu des versions après qui ont été faites en 2D VGA, puis il y a même une version, je crois, en 2D haute définition qui est sortie il y a un an ou deux, de la première aventure de Larry. Et donc on va pouvoir retrouver Larry Laffer, ce loser éternel, sur NES, dans sa toute première aventure, celle où il essaye de perdre sa virginité à 40 ans en allant se réfugier à Lost Veggies, qui est la ville du vice. Et donc, on va pouvoir retrouver Leisure Suit Larry sur NES dans une cartouche inédite, un jeu qui n'aurait probablement jamais pu sortir à l'époque parce qu'il y a tout un tas de références érotico, romantico, sexuello, ce que vous voulez. Et donc c'est très 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 peu probable qu'il aurait pu sortir. Attendez, c'est quel temps qu'il faut utiliser? Bon, il y a sûrement pas moyen qu'on
le subjonctif passé, je crois.
Ouais, subjonctif, je suis pas sûr qu'il aurait fait non.
Que nous lions, dans l'ancien temps. C'est bien parce que cette phrase part complètement. Voilà, ça ne veut rien dire.
Tu peux la finir demain si tu veux.
Je pense que je vais faire ça. On va dire que c'est pas grave. À cause de la censure, on n'aurait probablement pas pu y jouer, en tout cas, et donc là, maintenant, on va pouvoir y jouer sur NES. La cartouche va être, comme toutes les autres cartouches de Can Games, une cartouche dézonée, donc vous pourrez y jouer sur n'importe quelle NES. Alors malheureusement, évidemment, sur une NES PAL, ça tournera en 50 Hz, donc en plus lent. Mais voilà, le jeu est fini à peu près à 80%, il manque en fait des éléments graphiques, encore, pour pouvoir finaliser la cartouche. Je ne sais pas si c'est fait avec l'accord de Universal, qui est l'actuel détenteur des droits de Leisure Suit Larry. Je précise. Hein.
Sûrement pas.
Je pense pas. En même temps, je sais pas où est basé Can Games. Kevin Henley, pour moi, il était américain. Donc voilà, je sais pas où c'est basé exactement. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit doute sur les droits. Alors il y a peut-être une certaine tolérance. C'est pas une nouvelle version. C'est vraiment une adaptation de la très vieille version. Donc je sais pas. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, donc du coup, Syrah, est-ce que t'as un truc, est-ce que t'as trouvé un truc intéressant dans les dojos hebdo ou pas?
Non, pas spécialement. Je fais appel aux auditeurs si jamais ils sont calés en isolation phonique. Ils peuvent me contacter sur le hashtag de Jobar. J'ai des petites questions pour eux.
D'accord, donc c'est un petit peu abusé quand même, hein, passer des petites annonces en direct. Tu veux pas, ouais, je vends une 205, état nickel.
Non.
Non, t'es sûr?
Non, c'est bien. C'est cool comme.
La section petite annonce du Dojo Bar.
Bah écoute, j'invente une nouvelle section, c'est bien déjà.
Ouais, non, mais voilà, mais on va faire ça, la section petites annonces. Ça sera après le tour de table de l'actu. Je cherche à revendre une ZX blanche 1972. Très bon état, très peu de kilomètres. Bref, on va passer, avant de passer à notre premier sujet, on va faire une première pause musicale. Alors, le thème musical de cette émission va être le jeu de Konami de 1992, si je dis pas de bêtises, qui est Axilay. Je sais pas si vous connaissez Axilay, c'est un shooter qui avait pour grande originalité d'alterner des phases classiques de shoot horizontales avec des phases de shoot verticales en mode 7. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, le mode 7, c'est le simulateur de tapis 3D de la Super NES. Voilà, c'est important parce que c'est... Voilà.
Tout le monde connaît le mode 7.
Qui ne connaît pas le mode 7,
voyons. Je sais pas, tous les gens qui sont nés après 1995. Oui. Donc, peu de gens. Enfin, peu de gens intéressants.
Probablement peu de gens qui nous écoutent.
Ça, c'est... Bref. Donc, on va s'écouter un premier extrait qui s'appelle Unkai et qui, en fait, est la musique du tout premier niveau. Ça dure voilà, un tout petit peu plus de 4 minutes et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
De retour.
Eh, bien joué, Syrah. Oh là là, la synchronisation.
Je suis synchro ou pas?
Ah ouais, t'es synchro là.
Sans déconner.
Oh merde.
Est-ce star?
J'ai dit au hasard.
Surtout que juste avant, il mettait quand même sa quéquette dans sa bouteille de bière, donc c'est pour te dire l'exploit.
Non, ça rentre pas. Hein. Ça... C'est trop petit.
Oui, non, d'accord. On va... C'est bon?
Enfin, peut-être si je vais dans la mer en hiver, peut-être.
Et encore, hein.
On va prendre une douche froide.
Bon, est-ce qu'on peut reprendre le cours normal de cette émission? On va parler de Gamepad. Alors, le Gamepad, est-ce une vraie innovation ou est-ce en réalité une technologie qui a été rushée et qui n'était pas du tout prête et qui, au final, est une catastrophe et qu'il faudrait rebosser oui. complètement? Alors je sais que vous avez tous un avis là-dessus. Alors je sais pas si vous avez tous essayé. Tout le monde a essayé le Gamepad ici. Il y a pas de traître.
Oui monsieur.
Oui monsieur.
Bah, tout le monde a essayé.
Oui monsieur.
Alors, maintenant que vous avez un petit peu de recul dessus, est-ce que vous considérez que les promesses qui avaient été faites au départ, le gameplay asymétrique, le gameplay off-screen, est-ce que tout ça, ça remplit le contrat, on va dire, de ce qu'on nous avait promis?
Oui,
Antix, je te laisse commencer.
Alors moi je vais faire la réponse D, mon capitaine, donc oui et non, dans le sens où, alors je vais peut-être plus parler de ce que j'ai un peu essayé, c'était principalement le off-screen, qui dans l'ensemble me paraît être une très bonne idée en tout cas, mais, qui fonctionne en tout cas, le seul mais que j'aurais c'est... j'ai pas pu essayer à distance, la seule fois que je l'avais fait, en tout cas ça avait plutôt bien fonctionné, donc j'étais satisfait. J'ai cru comprendre que ça va pas partout, en particulier dans les toilettes.
Et, je me permets d'objecter, ça marche très bien dans mes toilettes à moi.
J'imagine que ça dépend de l'épaisseur du mur. Et, non, en fait,
ça dépend de ton isolation phonique.
Oh, moi, je... Alors n'oubliez pas, hashtag de jeu bas, isolation phonique. Et le truc, c'était plus l'écran en fait, parce que je trouve ça un peu dommage quand on a une console qui marche sur télé HD, de mettre un écran dont la résolution maximum c'est 480p.
480p, t'es sûr?
Ouais, il me semble que c'est pas du HD.
C'est pas du HD, ça c'est sûr, parce que inclure un écran HD de cette taille-là, dans... enfin, je pense que ça aurait coûté un bras.
Bah, une Vita principalement. À côté une Vita.
Ouais, voilà. Donc c'est pas la... donc voilà, non. mais je pensais pas que c'était si petit. Je croyais que c'était un peu plus grand que ça quand même.
Bah, il me semblait que c'était ça. Après, moi, après, j'ai pas la console, donc c'est difficile.
Ou traître ou.
Et je l'avais surtout essayé sur F-Zero, donc si tu veux, c'était quand même bien plus sympa.
Ah oui, non, t'as pas le... Ouais.
Mais non, enfin, j'avais eu le... J'avais fait quoi? J'avais New Super Mario Bros. J'avais sur les deux écrans. Et même si le rendu était pas trop dégueulasse pour New Super Mario Bros, on sentait quand même que la taille de l'écran, enfin, la résolution de l'écran atteignait pas ce qu'il y avait sur la télé, quoi.
Oui, enfin ça se voit que c'est pas aussi fin que sur la télé.
Ouais. Mais c'est pas la même colorimétrie non plus.
Oui, ah oui, c'est pas la même colorimétrie, ça je suis d'accord.
Mais après, ça dépend de la colorimétrie, tu peux la... Ça dépend
tu peux mettre de la merde sur ta télé, oui, c'est sûr.
Oui, c'est ça. Mettre de la merde sur le gamepad aussi.
Alors attends, si rare tant que tu y es, la colorimétrie, du coup, c'est vraiment de la merde. Je suis pas un grand expert en colorimétrie, hein. Je constate qu'effectivement, elle est différente de la télé, qu'elle est pas extraordinaire sur certains trucs, mais bon, c'est pas non plus catastrophique.
Je suis pas expert, mais je pense que ma télé, elle est bien réglée. Et c'est pas pareil. Non, mais je pense qu'elle doit pas avoir elle doit pas gérer autant de couleurs. C'est beaucoup plus. Enfin, disons que c'est beaucoup plus terne que ce qu'on a sur la télé. Donc,
les couleurs sont pas aussi vives. Hein.
Donc ça fait tâche, surtout quand tu joues par exemple à Rayman Legends et que du coup tu joues à la fois sur ta télé et sur ton gamepad et que c'est la même image. Effectivement, enfin ça choque. Mais bon, ce n'est qu'esthétique. Je viens juste de regarder. Alors Reverso dit que c'est protection de jeu le gamepad. Donc nous allons parler de protection de jeu.
Game protector.
Non, celui traduit pas. Non, gamepad parce qu'effectivement. Ouais, d'accord. Putain, le traductotron 2, ça va être vraiment complètement épique. Il va falloir que je me creuse la tête pour trouver des titres le plus bateau possible, parce que Reverso est capable de faire de la merde avec n'importe quoi. Bref, cette parenthèse terminée, Kaliken,
c'est moi.
Avis... Oui, merci. Donc ton avis sur les promesses de base, donc le off-screen, le gameplay asymétrique. Alors on a parlé beaucoup de off-screen pour l'instant.
Oui.
Et assez peu de gameplay asymétrique. Antique, je sais pas si t'avais l'occasion de faire de tester du.
J'ai fait du Nintendo Land et.
Voilà.
Et en tout cas, sur les jeux, j'ai fait Luigi, Animal Crossing. Enfin, les trois jeux asymétriques, donc sont Luigi, Animal Crossing et Mario Chase.
Mario Chase, ouais.
Et dans l'ensemble, moi, j'étais plutôt convaincu en tout cas de l'intérêt ludique. Je trouvais que les jeux étaient quand même plutôt bien pensés pour le game. Enfin, avec le fait qu'il y en ait un joueur qui soit isolé. Surtout Animal Crossing, que je trouvais très réussi de ce côté-là. Enfin, en tout cas, je m'étais bien amusé là-dessus. Donc ouais, non, j'y vois un intérêt en tout cas pour le jeu multi. Après pour le jeu solo, j'ai pas eu l'occasion vraiment de tester ça, même si j'ai pas vraiment de jeu qui l'utilise. Par contre, c'est comme sur DS, ça se limite à afficher une carte et un inventaire. Dans l'ensemble, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, parce que passer dans les menus à l'infini dans un RPG, t'es bien content de pas avoir à le faire tout le temps.
Alors je suis assez d'accord sur ce point-là, je me permets juste Kaliken avant de te donner la parole. C'est vrai que c'est... Alors je suis un peu comme Antique, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que sur DS, t'as beaucoup de jeux dans lesquels, effectivement, sur DS et sur 3DS d'ailleurs, dans lesquels l'écran du bas sert juste à décharger le HUD, en fait, tout l'affichage finalement des options, des vies, des machins, il est reporté sur l'écran du bas, ce qui est pratique parce que ça libère de l'espace sur l'écran du haut. Et t'as à peu près le même phénomène quand tu joues à des jeux qui utilisent à la fois la télé et le gamepad en même temps. Et c'est très agréable. Faut reconnaître que ça fait un écran de jeu bien dégagé et ça permet de reporter plein d'options qui en plus sont tactiles, donc parfois beaucoup plus pratiques à utiliser. Je pense à Wind Waker HD qui est vraiment, vraiment super sympa à utiliser comme ça. Et dans le même temps, je trouve que sur DS et sur 3DS, c'est beaucoup plus pratique à utiliser pour une raison toute conne, c'est t'as juste à baisser les yeux.
Ouais, c'est ça.
Très légèrement pour avoir ton HUD, alors que là sur le gamepad t'es vraiment obligé de baisser la tête parce que la plupart des gens le tiennent pas en hauteur. Enfin, moi je l'ai quasiment posé sur les genoux et c'est beaucoup moins agréable parce que là tu perds vraiment complètement l'action de vue pendant pendant plus longtemps.
Les instants. Ouais.
Et je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois une bonne idée et que finalement à l'usage c'est pas extraordinairement pratique. Voilà.
Après, si j'ai bien compris, dans Zombio, c'était quand même plutôt bien utilisé justement pour la notion de stress et de survie.
Absolument.
Mais, tout à fait.
Ta remarque est assez juste, enfin, je m'étais fait la même d'ailleurs, hein, que ça allait quand même être moins pratique d'aller jeter un coup d'œil à sa carte, à son inventaire, sur son gamepad que sur son écran de bas de 3DS. Hein.
Bah voilà, sur Assassin's Creed 3 et 4, puisque j'ai fait les deux et que les deux avaient une carte déportée sur le gamepad, qui était une carte de proximité, c'est-à-dire que t'as pas l'intégralité de la carte, t'as juste, on va dire, je sais pas, 1 km autour de toi ou 500 mètres autour de toi, quelque chose comme ça. Donc déjà le fait que t'aies juste 500 mètres autour de toi, ça t'obligeait quand même à charger la carte du monde de temps en temps quand tu devais aller regarder un truc qui était un peu plus loin, parce que t'es pas une option ergonomique extraordinaire. Mais on va dire que c'est pas des jeux qui ont été conçus avec le gamepad en tête. Mais même quand tu le fais pas, au final, le fait de, tu sais, je sais pas, t'avances, t'es en train de courir ou je sais pas quoi, ou t'as ton bateau qui est en train de naviguer, le fait d'être obligé de regarder en bas puis de revenir, au final, ben voilà, c'est pas top. Après, comme charger le menu de la carte, c'est un temps de chargement qui met, je sais pas, 4-5 secondes et qui interrompt le gameplay, au final, tu le fais quand même. Mais c'est pas forcément super optimal. Bref, Kaliken, je te laisse la parole concernant le off-screen et le... Enfin voilà, est-ce que tu considères, toi, que le gamepad répond à toutes ces attentes-là de off-screen, de gameplay asymétrique et autres?
Bah moi, je vous rejoins pratiquement totalement dans ce que vous avez dit. En soi, le gamepad, les deux gros défauts que j'ai pu constater en y ayant joué, c'est déjà la qualité de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas aussi net que ce qu'on peut voir sur sa télé. D'autant plus que la Wii U, bah justement, avec son passage à la HD, on voit que ça commence à être pas trop dégueu. Donc c'est vrai que sur l'écran, c'est pas que c'est baveux, mais c'est pas tip-top. Et ensuite, bah là où ça m'a déçu, c'est vrai que bah dès que tu t'éloignes un petit peu trop, bah ça marche plus trop, quoi. Si tu veux jouer dans tes chiottes et que t'es un peu loin de ton salon, bah c'est clair que là c'est pas terrible.
Juste pour info, tu as combien de murs entre tes chiottes et ton salon et t'es à quelle distance qu'on essaye de faire
et
un petit comparatif?
Alors,
et avec quelle isolation faut dire?
C'est le plus important.
C'était pas chez moi que j'ai testé, donc c'était genre à 10 mètres, quoi. 10 mètres après l'isolation. D'un pote,
et
donc
avec qui?
Voilà, non, j'étais seul avec le gamepad pour tester, quoi.
Tu étais seul avec le gamepad et ton caca.
Voilà.
Solitaire.
Tout à fait. Et donc finalement, ouais, donc le gamepad, à part ça, moi je le trouve plutôt bien, et c'est plus l'utilisation qui en est faite dans les jeux qui suit pas finalement. Et finalement, c'est un peu le même principe qu'il y avait eu avec la Wii, c'est-à-dire que au départ avec la Wii, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait plein de jeux qui promettaient plein de trucs. On se disait ça va être la folie, et finalement on s'est retrouvé un peu à gesticuler toujours dans les mêmes sens. Et là le gamepad, ben ouais, regardez tout ce qu'on va faire, et puis finalement non, ben on vous met la carte et l'inventaire et puis basta. Donc
oui, c'est un petit peu une espèce d'effet de rationalisation d'une certaine manière, c'est-à-dire que on expérimente énormément de choses, on va faire tout et n'importe quoi avec, et puis finalement on rationalise sur ce qui est le plus pratique, facile, rapide à développer, efficace pour le joueur et intéressant pour le jeu.
Il y a le même phénomène avec la DS d'ailleurs. Hein, où,
exactement, t'as eu beaucoup de jeux gadgets et de jeux...
Même sans ça, il y a beaucoup de jeux qui ont déporté la carte et le HUD sur l'écran du haut ou l'écran du bas, parce que c'était finalement le plus simple à faire, et ça convenait bien au rythme du jeu. Le jeu n'avait pas besoin de tactile, par exemple.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Et puis même ce que vous disiez là sur le fait que c'est vrai que quand on a l'écran, enfin par exemple la carte ou l'inventaire ou les options d'un jeu sur le gamepad, moi je décroche complètement du jeu même Zombie U quand je l'ai testé, même si c'était stressant, ça me, je sais pas, j'avais l'impression de retourner à la réalité pendant quelques instants et ça me fait vraiment complètement décrocher de l'immersion du jeu, de devoir retourner sur le gamepad.
Sinon, à propos du off-screen play, est-ce que vous pensez que c'est un vrai argument de vente aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu, enfin voilà, que c'est une option sympathique, mais finalement que de toute façon ça remplacera pas le vrai jeu sur la vraie télé.
Peut-être que dans les familles avec des enfants qui monopoliseraient la télé. Enfin, moi, dans mon cas, c'est pas du tout. J'y vois aucun intérêt, en fait.
Alors, je vais.
Ah, c'est pas pour ça que ça fait un trou dans ton mur, hein, pas pour pouvoir jouer dans toute la maison.
Non.
Je vais parler pour moi. Moi, j'ai deux enfants qui monopolisent pas forcément la télé, mais quand tu veux jouer à un jeu un peu violent et que t'as les gamins qui sont en train de te tourner autour, c'est vrai que le gamepad, c'est quand même bien pratique. Enfin moi, Assassin's Creed 4, j'ai dû faire 60 heures de jeu, dont 45 voire 50 sur le gamepad, parce que j'avais toujours les gamins dans les pattes, et que là je pouvais jouer tranquillement et casser la nuque des gens, leur tirer dessus et leur couper la gorge sans que les gamins voient ça à la télé. Donc moi j'ai tendance à considérer que c'est l'accessoire idéal du père de famille. Maintenant, tout le monde n'est pas père de famille, tout le monde ne se soucie pas forcément de ça d'ailleurs.
Donc, moi je regarde Game of Thrones avec mon fils. C'est vrai en plus.
Mon dieu. Pauvre petit gamin.
Il va aller finir.
Hashtag l'éducation.
Au secours. Donc je sais pas. Donc Sirard, toi tu considères. Toi t'as jamais eu vraiment l'utilité à part de manière extrêmement. Extrêmement
non,
sporadique, on va dire.
La meilleure utilisation c'est Donkey Kong Country Returns avec l'écran éteint, c'est bien. Encore que ils ont pas été foutus de l'éteindre complètement. Il est rétroéclairé mais c'est noir. Mais bon, non, moi le bon, à part évidemment Nintendo Land où on a un gameplay asymétrique qui est vraiment, enfin c'est le seul jeu vraiment qui l'exploite complètement. Bon, il y a les Rayman's Legends, il y a sur Super Mario 3D World aussi. Il y a de temps en temps, il faut interagir avec l'écran. Alors d'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais sur quand il fallait jouer un petit peu avec l'écran sur Super Mario 3D World, moi j'ai tendance du coup à regarder l'écran du gamepad, donc jouer avec, et puis ensuite continuer sans remonter mes yeux en fait, parce qu'effectivement il y a une grosse distance à parcourir, et donc je continuais à jouer sur le gamepad sans trop m'en rendre compte, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, je suis con. J'ai regardé la télé.
J'ai eu exactement le même genre de truc sur moi sur New Super Mario Bros. Et New Super Luigi Bros. D'ailleurs. Évidemment. Dans lequel, à partir du moment où je commençais à regarder le gamepad pour une raison ou pour une autre, je sais pas pour quelle raison, si tu veux, tu regardes ta télé, tu machins, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu regardes le gamepad, tu continues à jouer sur le gamepad, alors que sur la télé, ouais, c'est quand même plus joli. Voilà, t'as pas le réflexe de relever les yeux simplement parce que relever les yeux, ça veut dire.
Comme
tu
quoi,
perds
c'est pas
deux,
si
trois
dégueulasse.
Secondes, Oui, mais c'est carrément. Enfin, moi, effectivement, la colorimétrie de l'écran est pas extraordinaire, la résolution est pas extraordinaire, mais sincèrement, je trouve que ça passe. Enfin, c'est voilà. Si tu peux pas faire autrement, en tout cas, c'est pas forcément plus crade. Alors évidemment, si on peut éviter.
Bon, en même temps, je vous ai tweeté de magnifiques photos de Game Boy Camera aujourd'hui. Donc, on peut faire du
tout
beau
à fait.
Avec.
On peut faire du beau
la grosse,
avec
grosse merde
quoi.
Technique. Hein.
Non, parce que je te rappelle qu'à l'époque, c'était la plus petite caméra numérique du monde.
Ouais, mais pas la mieux.
Mais...
c'est pas très dur.
Alors, off-screen, est-ce que c'est un vrai argument de vente? Est-ce que, Antix, est-ce que toi, tu considères que c'est un vrai argument de vente aujourd'hui alors... qui n'est pas assez mis en avant? Parce que Sony l'a fait aussi. Le truc, c'est que pour faire du off-screen avec des consoles Sony, en gros, il faut que tu achètes une PS4 à 600 boules.
Et
une Vita 400 boules et une Vita à 200. Donc le off-screen te coûte quand même très cher, alors que là, finalement, il est inclus par défaut.
Et là, je crois qu'ils vont faire un pack hein, avec les deux consoles en même temps.
Sérieux en
fait. Bah, ouais. Fallait dire un jour, hein, faut bien sauver la Vita. Hein.
Pour seulement 999€.
C'est un peu ça.
Mais
est-ce que tu considères qu'ils mettent pas assez, est-ce que tu considères qu'ils mettent pas assez l'accent dessus, qu'ils essayent pas de créer le marché ou que le marché finalement il n'existe pas et que tout le monde s'en tape et voilà.
Perso, je pense que c'est presque la fonction la plus intéressante du gamepad. Et même si maintenant j'en ai pas vraiment d'utilité parce que j'ai ma télé, je peux facilement accéder à la console tant qu'il y a trop de soucis. Il y a pas grand monde qui va me prendre place. Je pense qu'il y a 10 ans, on m'aurait dit la GameCube, tu peux prendre la manette et jouer à tes jeux GameCube sur ton écran. À l'époque où on était trois à se disputer la télé, j'aurais été super content. Donc, je pense que c'est un bon argument de vente. C'est pour ça que j'ai un peu reproché la qualité de l'écran et parlé un petit peu de la portée qui était apparemment pas terrible. Parce que pour moi, c'est peut-être les arguments les plus intéressants de la Wii U. Pour quelqu'un qui veut juste. Le scan, c'est pour quelqu'un qui voudrait jouer tranquillement et qui n'a pas forcément accès à la télé tout le temps, bah, c'est un bon argument.
Ah, alors, c'est vrai que pour résoudre les disputes familiales aussi, c'est pas mal. J'y avais pas pensé, moi, mais c'est vrai qu'effectivement, d'un gamin qui veut jouer à la console, l'autre qui veut regarder un dessin animé, et puis voilà, du coup, effectivement, les deux sont contents. J'y avais pas pensé. J'ai vu aussi pas mal de photos qui tournaient sur Reddit, notamment, parce qu'il y a un sub Wii U. De gens qui trimbalaient leur Wii U dans les aéroports, dans les gares, dans les trucs comme ça, et qui se branchaient sur une prise électrique à disposition et qui jouaient comme ça, donc sans avoir besoin de télé finalement, qui branchaient juste la Wii U, qui l'allumaient, qui prenaient leur gamepad et qui jouaient comme ça.
C'est un peu hardcore, mais
ça se fait quoi, enfin je veux dire, pourquoi pas, à la limite.
T'as des prises dans l'avion, ça t'occupera, hein.
Mais c'est un peu ça, en plus il y a des sacoches de transport. Enfin, comme elle est petite et pas très très lourde, c'est vrai que c'est pas forcément idiot, je trouve. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de chose qui vaudrait le coup d'être mise en avant aussi? Je sais pas, c'est un peu curieux comme utilisation, mais finalement on peut y jouer. C'est presque de la console nomade quand on en arrive là.
Peut-être un peu plus tard avec une version peut-être encore plus petite de la Wii U.
Une Wii U One, comme ouais, la PS1 à l'époque, qui tenait quasiment dans la poche. Parce que c'est qui la vendait. Hein.
Est-ce que vous fantasmeriez sur une Wii U directement incluse dans le gamepad avec un manche-disque sur le dessus par exemple?
Moi je faudrait presque aller plus loin, c'est qu'en fait au lieu de faire une... Alors je pourrais peut-être le garder pour le prochain sujet, remarque. J'hésite.
Oui, vas-y, garde-la pour le prochain sujet parce que ça va troller à mort.
Pas vraiment un troll en fait, c'est quelque chose pour moi qui me paraîtrait normal, mais c'est... Non, je le garderai pour après, mais en tout cas, ouais, non, moi l'idée me plaît bien, je développerai un peu plus tard pourquoi, mais...
Il y a des rumeurs là-dessus avec la fameuse fusion machin et fusion truc.
Ah oui, la division hardware qui est devenue dans le même bâtiment.
Oui, donc que bah, la fusion ce serait hein, avec 300 guillemets autour, le fameux nom de l'écosystème qui serait une console de salon et une console portable. Mais bon, on n'en est pas là.
Bah, ce sera peut-être la prochaine.
Ce sera le mot de la fin du prochain sujet.
Du coup, est-ce que vous pensez, donc le off-screen, ce que j'ai bien compris, c'est que tout le monde était à peu près convaincu que ça pouvait être un vrai argument de vente. Est-ce que vous pensez que le gamepad tout court est un vrai argument de vente? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être mises plus en avant?
Faut croire que non.
Le gamepad tout seul, non.
Parce que, je sais pas, il y a aussi le navigateur web qui est vachement sympa sur Gamepad. Ah, c'est oui. Vrai que les navigateurs sur la PS4 super. Et sur la Xbox One sont absolument catastrophiques. Alors sur la Xbox One, parce que c'est Internet Explorer. Mais sur PS4, c'est...
Ça, c'est un troll.
Oui, un tout petit peu.
Pas totalement, mais...
moi, je considère pas que c'est un navigateur. Faut quand même appeler un chat un chat. Tant qu'on considère pas qu'Internet Explorer est un navigateur, ça me pose pas de problème. Je rappelle d'ailleurs que le dojo n'est pas compatible avec Internet Explorer et que c'est plus ou moins voulu.
Disons que Microsoft a rendu Internet Explorer compatible avec le dojo. Je pense que c'est volontaire.
C'est plus ou moins volontaire. Je veux dire, par exemple, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vrai que sur le navigateur, c'est assez sympa. Vous pouvez lancer une vidéo YouTube et la mettre sur l'écran. Sur l'écran de la télé, je veux dire, et continuer à surfer sur un autre site, sur le gamepad, par exemple. C'est le genre de truc qui est...
Ça marche avec YouPorn.
Qui est sympa. Ça marche avec
YouPorn.
Ça marche. Alors oui, ça marche avec YouPorn.
Ok, j'ai m'acheté une Wii U.
Attends, moi j'ai essayé YouPorn, j'ai essayé dès le premier jour. Et rigole pas, ils ont une version optimisée Wii U. Alors, je sais plus si c'est YouPorn ou Wii, mais il y en a un des deux qui a une version optimisée Wii U.
Oh, c'était un beau marché de niche.
Écoute, le gamepad, moi, il porte partout dans la maison, donc voilà.
Et il y a Iwata qui te présente chaque vidéo. Directly to us.
Et maintenant, vous allez voir une double anale d'Ozo.
Ah ouais, vu au niveau auquel il se baisse quand il te fait ça, honnêtement, c'est pas juste une présentation, c'est presque une proposition.
Non, mais voilà, mais moi, ça me fatigue. Et maintenant, vous allez voir mon cul d'Ozo.
Je le vois bien avec ses gestes. Moi, j'en ai une grande comme ça.
Dozo. Non, mais c'est important de... Donc, a priori, enfin, ça fait pas vendre des Wii U. Enfin, c'est pas ça qui fera vendre des Wii U, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est les jeux qui feront vendre, ça c'est à peu près sûr, mais comme toutes les consoles. Le gamepad n'est pas en soi un argument de vente.
Bah, je pense que les gens ils achètent la Wii U malgré le gamepad hein, pour l'instant. C'est pas forcément le
malgré
truc
le gamepad.
Qui...
Tu penses que les mecs ils se disent au départ c'est de la merde et que c'est une fois qu'ils l'ont essayé qu'ils se disent que c'est pas mal.
Ouais, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutaient. Bref, j'ai vraiment pas l'impression que le gamepad c'est l'effet waouh que pouvait donner la Wii quoi à l'époque.
La Wii c'est une exception. Je crois que c'est la seule console qui a réussi à se vendre sur son concept et pas
sur un malentendu.
Sur un malentendu. Ouais.
Non, mais c'est non, surtout que.
N'oubliez pas la PlayStation 2, hein, qui s'est quand même vendue sur un concept. Hein.
Ouais. Mais
Tu veux dire les films Pixar.
Là, oui, c'était facile à expliquer. Enfin, tu montres, regarde, on fait le tennis, on fait le geste et tout. Le gamepad, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'expliquer le gameplay asymétrique. Le fait. Enfin, il y a trop de petits trucs en un pour expliquer ça simplement. Et ils sont un peu viandés sur le marketing d'ailleurs, je trouve.
Bah, déjà, ils se sont viandés sur le nom. Donc,
ouais, carrément.
Oui, ça, c'était l'erreur. Voilà.
Protection de jeu, c'est pas mal.
Le Game Protector.
Non, on a dit protection de jeu. D'accord. Bah, comme je vois qu'on est en train de doucement mais sûrement entamer le deuxième sujet, je pense qu'on va faire la deuxième pause musicale maintenant, si vous n'avez pas d'inconvénient.
Yeah.
D'accord, c'était quoi cette voix?
C'est ton chat, non?
Vous me faites très très peur, les gars. Donc on va entamer la deuxième pause musicale, juste le temps, parce que j'ai pas tellement pris ça, que je retrouve le... sur la console de mix.
Temps de meubler.
Voilà, si quelqu'un veut meubler, hein, pour l'ambiance.
Non, on te laisse.
C'est patogé avec ma console de mixage. Donc on va écouter un deuxième extrait de la bande originale d'Axile. Toujours
encore
sur Super NES, toujours par Konami. Mais c'est Axile, le thème.
Mais pourquoi Axile?
Mais parce que j'aime bien ce jeu. Ah. J'ai découvert il n'y a pas longtemps et je me suis vraiment bien trippé. Et je suis mort très souvent.
Je suis sacrément emmerdé avec la première chanson, en tout cas.
J'ai pas dit que c'était des morceaux exceptionnels, c'est un peu plus musique d'ambiance, mais c'est rigolo. Donc là, le morceau s'appelle Colony, et je crois que c'est la musique du 3 ou 4e niveau, si je dis pas de bêtises. Voilà, bah c'est tout. Et puis on va s'écouter ça, et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes pour le gros topic à troll de la soirée.
Ré!
Sujet de l'émission que nous avons déjà un petit peu entamé tout à l'heure, à savoir que peut faire Nintendo pour sauver les meubles.
Les vernir.
Mon Dieu, que peut faire Nintendo pour remonter la pente?
Appuyer sur B pour courir.
Voilà, ça y est, c'est bon, c'est tout fait. Alors d'abord, est-ce que Nintendo est dans une situation si catastrophique que ça?
Oui.
Alors qu'est-ce qui, voilà, justement, est-ce que vous avez de la justification derrière?
Déjà, on peut comparer avec la Dreamcast ou à temps égal et
indispensable.
J'ai fait exprès de regarder en détail les chiffres de vente de la Saturn et de la Dreamcast.
Vas-y.
Avant l'émission. Donc, la Saturn, c'est 11,5 millions d'unités vendues dans le monde, dont 5 millions au Japon, 2 millions aux USA. Et la Dreamcast, c'est 9,5 millions d'unités vendues dans le monde, mais c'est au bout de 3 ans. Donc c'est quand même sur une durée relativement longue. Les deux, c'est à peu près en 3 ans, en gros. Je peux m'avancer, mais il me semble qu'il y a un petit peu plus de Wii U que ça dans le monde. C'est une idée, hein. Pas sûr.
Beaucoup.
Peut-être pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, ça fait un an et demi maintenant, à peu près, que c'est sorti, en gros.
Ouais.
Voilà, c'est pas aussi catastrophique que la Saturn et la Dreamcast. Et pour l'instant, c'est pas aussi catastrophique que le Virtual Boy, c'est pas aussi catastrophique que la N75. Non, ça arrivait.
La GameCube.
Que la GameCube. Enfin, pour l'instant, je veux dire, niveau chiffre de vente, c'est pas pire que la GameCube. Hein. Donc, est-ce que c'est vraiment tant la merde que ça, ou est-ce que c'est une large exagération des médias généralistes?
C'est la Wii U qui est dans la merde, c'est pas Nintendo. Parce que la 3DS se vend quand même plutôt bien. Et que tant que Pokémon se vendra par camion entier, je pense que Nintendo est couvert pour des générations et des générations.
C'est que Nintendo, en fait, il a une sécurité, une sorte de filet de sauvetage que n'avait pas Sega à l'époque.
Mais si, il y avait la Game Gear. Alors je rappelle, la Game Gear pareil, c'est 12 millions d'unités dans le monde, un truc comme ça, entre 11 ou 12 millions. Donc si tu veux, la concurrente de l'époque, c'était la Game Boy qui a juste fait 120 millions à côté. C'est un petit peu un rapport de 1 à 10. Donc voilà, pour vous, c'est complètement exagéré. Enfin, c'est pas normal que Nintendo n'arrive pas à vendre sa console de salon, mais la situation est pas si catastrophique que ça. Alors c'est sûr que quand on sort de la Wii, quand on sort de la Wii qui a eu un tel succès, qui était une telle imprimante à pognon, repasser sur le finalement une console presque normale, ça doit faire un sacré choc au niveau des finances, mais globalement, c'est quand même pas non plus la mort, quoi.
Bah, en termes de vente, je pense qu'ils sont au niveau de ce qui se faisait il y a 10 ans avec la GameCube et la Game Boy Advance. La Game Boy Advance se vend bien, la GameCube est dernière. C'est à peu près ça, a priori. Là, par contre, il y a une différence, même si... Ça, c'est subjectif, c'est peut-être au niveau de la qualité des jeux qui est pas la même, on va dire. Même si je trouve que la 3DS a de très très bons jeux jusqu'à présent, parfois même meilleur que leur équivalent Game Boy Advance quand il y en avait un. Mais bon.
Bah, c'est pas peu dire, hein. De toute façon, rien que la line-up du GameCube et ce qu'on a nous actuellement au bout d'un an et demi, c'est sans commune mesure. On avait des jeux qui étaient grand public, qui étaient aimés de tout le monde. Rien qu'un Wave Race, Blue Storm, qui tue tout. Là, on a quoi en équivalent?
C'est vrai que le problème, en fait, c'est surtout ça. C'est qu'au final, on a eu un Mario, un Luigi à la sortie, donc était du New Super Mario. Enfin, je me demande si la recette, c'est pas un petit peu épuisée du New Super Mario. C'est-à-dire que ça a très bien marché sur Wii, mais finalement...
Après le deuxième épisode, de toute façon, on a commencé à voir un peu les grosses ficelles et les répétitions.
Oui, voilà, c'est-à-dire que...
Bon, on s'est fait un mec une fois, puis on n'a pas recommencé, quoi.
C'est un peu ça. New Super Mario Bros. DS, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé du tout. Je sais que New Super Mario Bros. Aussi, oui, a fait un petit peu plus l'unanimité. C'est vrai que c'était sympa. Voilà, on va dire ça comme ça. New Super Mario Bros. 2, c'est clairement l'épisode de trop, parce que c'est pas très intéressant. Et c'est vrai que je me dis que les gens qui ont fait le 1, le 2, le 3, ils se sont dit le 4, on va peut-être pas y aller, quoi. Mais c'est vrai que depuis Pikmin 3, qui est un très 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 bon jeu, mais qui reste quand même un jeu de presque de niche. Enfin, je veux dire, Pikmin, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit une licence ultra forte, quoi.
Et ça, c'est pas en même temps sorti en juillet, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. En plus, je pense que le jeu pourrait fonctionner, quoi. C'est un grand public au final au niveau design. Bon, c'est un genre qui est un peu particulier, c'est pas Call of Duty, c'est sûr. Bah, je pense que c'est un titre qui pourrait fonctionner. Hein.
Moi, j'ai l'impression que Nintendo a reproduit la même erreur qu'à la sortie de la 3DS et à la sortie de... Je sais plus quoi. On avait fait un commentaire là-dessus il n'y a pas longtemps.
C'est laisser la place aux éditeurs tiers,
c'est ça? Voilà, laisser la place aux éditeurs tiers, et finalement, les éditeurs tiers, ils ont fait que de la bouse. Parce que quand tu regardes à la sortie de la Wii U, tu avais quand même pas mal de jeux dispo. Alors, ok, c'était souvent des portages qui dataient un petit peu de jeux d'autres consoles, mais enfin, globalement,
parfois,
tu avais des jeux.
D'ailleurs.
Tout à fait, mais tu avais des jeux. Tu pouvais pas te plaindre du fait qu'il n'y avait pas de choix. T'avais du Arkham City, t'avais quelques inédits, genre Zombie U et autres. Mais voilà, ils ont laissé la place aux éditeurs tiers. Finalement, ils avaient sorti Nintendo Land, qui était plus une espèce de proof of concept. Voilà, et un Mario. C'était le Wii Sport, et un Mario, et voilà. Et après, ils ont laissé la place aux éditeurs tiers. Est-ce que ça, c'est une connerie, finalement, d'avoir laissé la place aux éditeurs tiers?
À mon avis, ils auraient dû payer.
En plus, ils ont dû payer.
Ils auraient dû. Tu prends Rayman's Legends, il était dans la line-up, c'était magique. Il aurait pu faire vendre des consoles, c'est sûr. Mais sorti un an après la console en sortie multi, ça sert à rien, quoi.
Alors bah, même si la version supérieure, c'est la version Wii U quand même, mais je veux dire, ça, les gens, ils vont peut-être pas prêter beaucoup d'attention.
Ouais, mais ça, ils s'en foutent, s'ils peuvent jouer sur leur Xbox, ils sont contents.
Même à une version inférieure.
Ouais, mais
c'est triste.
Bah, de toute façon, ils ont une console inférieure. Donc.
À partir de ce moment-là.
Oui, à partir de ce moment-là, c'est vrai que quitte à faire de la merde, autant en profiter. Est-ce que vous pensez.
Pour la partie sur les tiers, ils ont laissé la place aux tiers. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Quand on voit la quantité de jeux qui est sorti depuis un an et demi et surtout les 6 mois de vide. Qu'il y a depuis le début de l'année, quoi. Pardon, Donkey Kong Country et Mario Kart, il n'y a pas eu grand chose, quoi. Il y a eu NES Remix 2.
Ouais, il y a eu NES Remix 2 qui sont. Moi, j'ai un peu du mal avec ces jeux-là parce que c'est un petit peu un échantillon de ce que tu pourrais avoir sur l'eShop, en fait. Tu payes pour avoir une démo de ce que tu as sur l'eShop, je trouve ça un peu triste.
Après, il y a des petites modifications. Enfin, le problème, c'est qu'à mon avis, au début, ils sont à la bourre depuis un an et demi. Hein.
On m'a dit beaucoup de bien de Wonderful 101. Donc, je sais pas si vous l'avez testé.
C'est très bien, mais c'est sorti au mois d'août.
Ouais, ouais.
Donc, ça fait effectivement, il y a quand même. Enfin, en termes. Nintendo a jamais été un grand champion pour gérer son calendrier. Je maintiens. On a toujours connu sur toutes les consoles des grosses périodes de blanc comme ça.
Mais à ce point-là, quand même, c'est fou.
Bah, je sais pas.
La GameCube en a eu une sacrée mémoire. Hein. Je crois qu'en 2005, de mémoire, je me souviens même des jeux qui sont sortis. Je crois que j'ai dû acheter juste un jeu en 2005. Quoi.
De mémoire, sur GameCube, il y a eu comme ça un énorme blanc à un moment qui était juste catastrophique. Alors que c'est vrai que dans le même temps, je crois qu'un des éditeurs, enfin un des constructeurs qui maîtrise le mieux ces calendriers, c'est Microsoft. Alors les jeux sont pas toujours de qualité extraordinaire, mais t'as un triple A quasiment tous les deux mois, t'as des jeux qui sortent régulièrement en format téléchargeable. Enfin, pour moi, c'était eux qui avaient la meilleure gestion de calendrier que j'ai jamais vue en tout cas.
Ils ont eu jusqu'à un certain stade en tout cas. Enfin, je me souviens que pareil, la Xbox les dernières années, heureusement qu'il y avait les jeux multiplateformes.
Oui, non, mais la
360,
voilà,
pardon.
La 360, oui, mais c'est vrai que ils ont un petit peu lâché l'affaire. Mais globalement, c'est vrai que j'ai jamais connu Nintendo grand maître du calendrier. C'est-à-dire qu'ils sont capables de te faire un Mario Kart, un Zelda et un Smash Bros la même année, et l'année suivante d'avoir rien du tout, quoi.
Bah, tu vois, la 3DS en 2014, hein, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose depuis le début de l'année, quoi. Il y a eu deux jeux. Alors que l'année dernière, à cette époque-là, c'était la fête,
c'est vrai,
un jeu par mois.
Kaliken, tu voulais...
Ouais, je voulais juste dire, au lancement de leur console de salon, ils ont toujours un gros jeu Nintendo, et là, c'est ce qui manquait quand même. Parce que, enfin, je suis désolé, mais New Super Mario Bros, c'est pas vraiment un vrai Mario, quoi. Il manquait...
C'est sympathique,
c'est un vrai Mario, mais c'est pas un gros jeu.
Ouais, c'est pas un gros jeu, genre, même... c'est pas un Mario Galaxy, il manquait un Zelda, il manquait un Mario...
C'est un jeu de fan. Enfin, je veux dire, New Super Mario Bros, clairement, c'est un jeu qui est destiné aux fans, c'est pas destiné au tout venant.
Voilà, et puis c'est un jeu multijoueur aussi, quoi. Il manquait une expérience solo de base bien costaud qui nous
alors c'est effectivement un WebRest haute définition avec un petit peu d'utilisation du gamepad, ça aurait peut-être pu faire décoller 2-3 trucs.
Mais attends, on peut faire la liste de tous les jeux qui seraient géniaux en HD avec
F-Zero. Je t'interdis de dire F-Zero.
Non, je peux juste dire Star Fox
F-Zero.
Déjà.
F-Zero, tu fais un portage HD du GX avec un mode en ligne et ça suffit, hein.
Mais oui.
Putain, c'est clair que ça c'est le truc qui est vraiment rapide, pas cher, efficace, hein.
Je sais pas si rapide et pas cher ça marche parce que bon, voilà.
Attends, les portages HD quand tu, enfin après il y a portage HD, portage HD. Si c'est juste pour faire un émulateur GameCube avec un upscaler 1080p, ça sert pas à grand chose.
La Konami en portage HD a quand même une longue liste de jeux plus buggés que leur version originale, avec le Silent Hill et je crois le Zone of the Enders qui rame sur console HD et pas sur PS2. Bah c'est facile.
C'est un putain d'exploit quand même parce que sur PS2 pour pas ramer fallait y aller. Hein.
Oh oui.
Le seul remake qu'ils ont fait, c'est le jeu qui a le mieux vieilli de l'ensemble de la ludothèque Nintendo.
Et c'est aussi un de ceux qui a le mieux marché, parce que je vous rappelle que Wind Waker HD a relancé les ventes de Wii U.
Il y en a eu deux au lieu de une.
Oui, c'est un peu ça.
C'est ce que les gens attendent, quoi.
Ben c'est ce que oui finalement c'est d'une certaine façon, enfin je sais pas, Wind Waker il a regagné ses lettres de noblesse il y a quelques années maintenant
depuis la sortie de Twilight Princess en grosso merdo.
Ouais, c'est un peu ça, enfin il a été réhabilité depuis un certain temps, c'est vrai que je pense qu'il le méritait. Et en plus la version Wind Waker HD apporte des petites choses, il y a pas seulement la haute définition, il y a quand même quelques petits trucs.
Il y a quand même eu un travail assez important dessus, ce qui est pas forcément le cas sur tous les portages.
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un remake d'un jeu qui a 10 ans en gros qui fait vendre des Wii U, quoi. C'est quand même un peu, donc faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il fasse un remake de Star Fox Adventures? Non, déconnez pas ça.
Non, mais Majora's Mask ça aurait été magnifique.
Ah, non mais
Non, mais j'ai l'espoir qu'il y ait Majora's Mask 3D sur 3DS.
Oui, non, ça serait bien
ça.
Faire
ça. Non, parce qu'ils vont juste le rendre en 3D. Il faut qu'ils le redessinent.
Ah, je pense que ça.
Ils pourraient faire un nouveau Zelda quand même.
Zelda, un Mario Galaxy, mais un Metroid aussi.
Ouais, honnêtement, le truc qui a le plus de chances de relancer les ventes pour l'instant, c'est Mario Kart.
Ouais.
Bah, Mario Kart va forcément. Je sais pas, parce que est-ce que Mario Kart ça va pas faire comme New Super Mario Bros où finalement les gens vont se dire bon, ça va, c'est le 8ème, on n'a plus rien à foutre.
Par contre, ça risque de faire. Mario Kart, oui, c'est très bien vendu parce qu'il y avait beaucoup de Wii. Mario Kart GameCube n'a pas fait vendre non plus des millions de GameCube, donc à mon avis, c'est un espèce de Saint Graal qui malheureusement, Mario Kart 8 ne fera pas vendre tant de Wii U que ça. À mon avis, il les fera pas vendre par camion.
Alors d'ailleurs, je viens de remarquer, en fait, Nintendo, ils sont très intelligents. Mario Kart 8, c'est un jeu de mots belge, en fait. C'est Mario Kart 8. Donc ils ont réussi à mettre un You dedans, simplement juste en Belgique. Désolé, cette blague était nulle.
J'ai pas compris.
J'assume l'entière responsabilité de cette blague et je me retire définitivement du dojo bar.
Il y avait pas Méduse, personne pouvait rire.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Il y a pas de Belge. Je suis désolé, mais Méduse n'est pas là. Ses frites
nous manquent. Tu nous manques, Méduse.
On t'aime. Reviens.
Viens vers nous, sale poulpe.
Est-ce que vous pensez que Nintendo pourrait écourter la vie de la Wii U un petit peu comme avait fait Microsoft avec la Xbox finalement, c'est-à-dire je vous rappelle que la Xbox c'était 3 ans de durée de vie, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans finalement ils ont arrêté et au bout de 3 ans et demi après la sortie de la Xbox 360 sortait. Est-ce que vous pensez que Nintendo aurait intérêt à faire ça, c'est-à-dire à dire ok, ça marche pas, on fait autre chose, on fait éventuellement un truc peut-être pas innovant, moins innovant, ou avec une technologie plus éprouvée, et on sort finalement un bête équivalent d'une PS4, mais avec un peu de puissance gonflée ou je sais pas quoi.
Alors, je pense que
et, qu'il le fasse et on y maintenant. Va comme ça. Mais alors, qu'il le ferait dans un an et demi ou dans 6 mois, quoi.
Non, faut pas. Enfin, s'ils veulent faire quelque chose, s'ils veulent sortir une console plus puissante, faut qu'ils le fassent en ayant un coup d'avance sur les autres et en étant déjà plus puissant que ce qui existe. Mais vraiment.
Donc dans un an et demi. Là, ils seront en plein milieu de la. En plein ouais, milieu mais... de, ils iront chier directement sur les plates-bandes de la concurrence.
Bah, ils n'ont pas trop le choix. Après, il y a un problème qui est un problème d'image. Enfin c'est l'impression que j'ai, c'est que les joueurs en ont rien à foutre de Nintendo. Enfin.
Il y a un peu de ça, ouais.
Je veux dire, les vrais joueurs, ils ne jouent qu'à Nintendo.
Le public PS4, le public Xbox One, je pense que Nintendo sort demain la console la plus puissante du monde. Donc, comme avec la 64, ils ne l'achèteront pas. Il n'y a pas FIFA dessus. Et en fait, il y a le problème. Donc, ils en ont rien à foutre de Nintendo. Et il y a le problème des tiers. Qui a posé problème à la 64, qui a posé problème à la GameCube, qui s'est aussi fait lâcher au bout d'un moment. Je parlais du vide de 2004-2005. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de jeux tiers n'a pas aidé non plus. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que. Je pense que même avec la meilleure volonté du monde, Nintendo est un peu seul dans son bateau. Et donc finalement la question de qu'est-ce qui peut sauver Nintendo, c'est peut-être pas de faire exactement comme les autres, faire différemment, mais cette fois essayer de le faire un petit peu mieux.
Une réaction, quelqu'un? Je vous sens médusé par le... Alors que Méduse n'est pas là, c'est un peu triste.
T'es remplacé, c'est pour ça.
Alors je sais pas, moi j'ai effectivement l'impression... Alors, je vais pas faire le Calimero parce que c'est, je pense qu'il y a une petite part de vrai, mais peut-être pas forcément tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de Nintendo bashing de la part de la presse spécialisée. Alors je sais pas pourquoi.
Ça,
peut-être
sûr.
Qu'ils sont, peut-être ah non, qu'ils leur offrent moins d'hôtels aux Caraïbes. Alors il y a clairement un problème entre Nintendo et les tiers. C'est effectivement le fait de s'être fâché avec Electronic Arts entre guillemets. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Même si personnellement Electronic Arts, je chie dessus et je considère que ça fait des années qu'ils font de la merde. Mais c'est vrai que effectivement le public qui a les FIFA, les Call of, globalement, il n'y a pas les FIFA, il n'y a pas les Call of, ils achètent pas, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y aurait quand même une carte à jouer à faire finalement ce qu'a fait Sega avec la Dreamcast? Alors évidemment la Dreamcast est un mauvais exemple parce que ça a été un four. Ils avaient un gros coup d'avance sur tout le monde et c'est vrai que ça leur a permis quand même de regrignoter des parts de marché alors qu'ils étaient très 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 mal barrés. Question trop élusive, donc.
Non, moi, je crois pas. Je crois que Nintendo n'est jamais aussi bon que quand il fait du Nintendo. C'est-à-dire que il faut pas qu'il se focalise sur la course à la technologie, à faire des trucs de fou et surtout qu'il sorte des jeux, quoi. C'est ce qui manque à la Wii U. Je pense que la Wii U, là, ils ont au moins la HD. Pour l'instant, la différence avec les consoles next-gen n'est pas flagrante parce que, enfin, si, elle, ça se voit, mais les consoles next-gen ne sont pas encore. Enfin,
l'écart n'est pas non plus aussi hallucinant qu'entre la 360 et la Wii, par exemple.
Il y a autre chose, c'est que Nintendo maîtrise très bien son matos. C'est du coup des jeux qui finalement sont peut-être pas si fous que ça. Actuellement, sont très bien pensés pour leur support et donc tiennent la route. C'est pas forcément le cas de beaucoup de jeux sur PS3 Xbox 360, quoi.
Ouais, puis j'ai l'impression que Nintendo a plein de cartouches et plein de trucs à faire et il ne les utilise pas. Donc je pense que c'est plus au niveau de la sortie des jeux qu'au niveau du hardware, quoi, que je trouve qu'il y a un problème.
De toute façon, une console, ça se vend sur les jeux. Hein, genre,
bah on oui.
Pas... Voilà. Et donc effectivement, le. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que c'est l'hypothèse qu'avait évoqué Oscar il y a à peu près un mois dans une émission très sérieuse d'ailleurs?
Moi, c'est ça. Est-ce que celle-là?
Est-ce que c'est finalement un manque de compétences en interne qui fait que les jeux prennent plus de temps? Est-ce que ils ont pas assez? Ils se sont pas assez diversifiés, ils se sont pas assez externalisés, ils ont pas profité des opportunités qu'ils avaient pour aller faire de, voilà, ils avaient pas les compétences pour la HD parce que ben ils ont 10 ans de retard.
J'exagère je pense qu'il y a beaucoup mais... de ça. Parce que finalement, mais eux-mêmes l'ont avoué, hein, le développement c'est pour eux c'est un peu une galère là. À part eux, tout le monde sait faire du HD quoi et de la HD. Et donc c'est pour ça qu'ils sortent rien, ils ont l'air d'être un peu à la ramasse et d'être super en retard. Sans doute qu'il n'y aurait pas eu ce bond technologique là, ou alors s'il l'avait sauté plus tôt, il y aurait plus de jeux actuellement. Mais bon.
Il y a aussi le fait que Nintendo, en tout cas c'est l'impression que j'ai quand je vois... Le fait que ça retarde assez facilement, c'est qu'il y a un degré de finition des jeux qui est peut-être aussi plus élevé que chez les éditeurs tiers qui finissent souvent avec des jeux buggés à la sortie, ce qui est moins le cas chez Nintendo, bon, un peu plus ces dernières années. Et on a quand même des jeux, moi, que je trouve qui sont plutôt bien finis, que j'arrive pas à retrouver sur d'autres supports,
oui,
par exemple.
C'est la qualité de finition et de manière générale, la qualité de finition des jeux Nintendo, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de jeux Nintendo qui ont...
Ils les sortent quand ils estiment qu'ils sont terminés, pas quand ils estiment qu'ils vont se vendre, enfin que c'est la bonne période pour les vendre.
C'est vrai que ça fait quand même une différence où t'as vraiment l'impression... Enfin, moi, c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs pour l'instant...
C'est chiant les messages écrits.
Ouais, ça déconcentre. Ouais.
Alors, note à moi-même, supprimez ça du podcast. oui, donc je disais, j'ai effectivement l'impression que c'est à peu près les seuls à. Enfin, je veux dire, des patchs Day One, par exemple, ça m'a toujours fait un peu halluciner. C'est que les mecs, ils sortent un jeu en boîte, ils vont le mettre à la presse, et en fait, il est pas fini. C'est juste que voilà, il faut le sortir à telle date, et tu le mets dans ta console, et pouf, premier truc que ça fait, c'est un patch, alors que tu l'as acheté le vendredi de sa sortie. Et j'ai pas retrouvé ça chez Nintendo. C'est-à-dire qu'il y a eu des patchs sur certains jeux, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour des corrections complètement ouf. Ça a toujours été pour des détails un peu à la marge. Alors, il y a Pikmin 3 qui a eu quelques corrections d'abus de sortie de map, mais que, voilà, finalement, c'était des cas assez particuliers et qui gênaient pas du tout le gameplay normal, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment le chercher. T'as l'inclusion de Luigi dans Mario, alors ce n'est pas sexuel. Hein.
De quoi?
L'inclusion de New Super Luigi U dans New Super Mario U, il y avait une petite mise à jour pour qu'il soit dans le menu et que tu puisses l'acheter directement, mais c'était vraiment des trucs assez mineurs, j'ai l'impression.
Ah, puis, enfin, au-delà des bugs, c'est aussi la qualité du rendu. Enfin, il y a, sur 3DS, les vidéos rendent jamais hommage au jeu, mais je regarde, il y a peu d'aliasing, ça rame rarement, bon, à part en 3D. Enfin, moi, c'est des choses qui font que un jeu qui rame, où il y a de l'aliasing, où il y a des bugs, gâche un peu le jeu. Enfin, Last of Us, qui est acclamé par tout le monde, qui tout le monde trouve super beau, je le trouve absolument ignoble personnellement. La résolution est chier, il y a de l'aliasing partout. Et j'ai vu des bugs gros comme
un éléphant.
Enfin, il y avait des gros bugs. Et,
comme la Kékette à Syrah, voilà.
Ouais.
Aussi gros que ça.
J'étais très mal parti quand même. Ça allait dériver assez rapidement.
Ah, alors je remercie Gezeuch, je dis pas de bêtises. Non, ou Gabiculi, je sais
les
pas.
Mêmes. Les mêmes.
Monsieur de Joe Hebdo. Hein.
Donc il y a le monsieur qui nous dit que c'est environ 6 millions d'unités dans le monde aujourd'hui. Et donc c'est moins que la PS4 qui est sortie un an après.
C'est ça.
Voilà.
Et qui est en rupture permanente depuis 6 mois.
Qui est en rupture organisée depuis 6 mois. J'ai une dernière question à vous poser avant qu'on rende l'antenne à vous Cognac Jay, juste après. Est-ce que vous pensez que Nintendo pourrait connaître à peu près le même destin que Sega, c'est-à-dire finir par abandonner le hardware et ne faire que finalement capitaliser sur ses licences actuelles, mais en les produisant sur PS4, Xbox One, pourquoi pas PC, pourquoi pas smartphone, tablette, et se dire que voilà, finalement il y a peut-être un plus gros potentiel dans les licences qu'ils ont, mais en se détachant du matériel parce que finalement ils subissent trop de Nintendo bashing, en quelque sorte, et se dire voilà, ça sert à rien qu'on fasse du hardware parce que de toute façon on va se faire fumer. Par contre, si on sort des jeux de qualité, quel que soit le support, les gens les achèteront, les fans les achèteront, les fans de la première heure, les petits nouveaux, enfin tout le monde se ruera dessus. Est-ce que vous pensez à quelque chose comme ça, sachant que pour Sega, enfin, si on reprend la qualité des Sonic depuis qu'ils sont plus éditeurs, enfin voilà, c'est pas top. Hein.
Même avant.
Ben, c'est-à-dire que j'ai rejoué à Sonic 2 il y a pas longtemps et c'est vrai que c'était de la merde aussi. Je suis désolé, mais je trouve pas que ce jeu soit intéressant. Je comprends pas comment ils ont vendu des consoles.
Leur destin.
Parce qu'il y avait pas de Mario et que c'était cool et ça allait vite.
Ouais, enfin, je sais pas. Alors, on va commencer par Syrah. Est-ce que tu penses qu'il pourrait abandonner complètement le hardware et finalement se refocaliser sur le soft uniquement?
Peut-être un jour, je pense pas avant un certain nombre de générations, pas d'ici la prochaine génération. À mon avis, ils sont toujours quand même. Maître Oscar, dieu des chiffres, n'est pas là, mais à mon avis, ils sont quand même toujours vachement rentables, vu que leur chiffre d'affaires par rapport au nombre d'employés est quand même assez exceptionnel. Je pense que finalement, même si ça cartonne pas tant que ça et qu'il n'y a pas beaucoup de jeux tiers, au final, vu qu'ils vendent quand même beaucoup, beaucoup de leurs propres jeux...
Oui, c'est un peu comme sur N64, où c'est une des périodes où Nintendo s'est fait des couilles en or, parce qu'en fait, il n'y avait pas de jeux tiers, et du coup, ils sortaient un jeu tous les 2 mois, et le jeu était systématiquement un carton, parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Il y a eu Pokémon aussi, hein.
Certes.
Ça a pas mal aidé.
Mais en tout cas, je pense pas qu'il soit complètement à la ramasse. Et effectivement, quand tu compares aux démarches de la Wii, bon, tu peux que pleurer, mais... moi, si je fais une boîte et que j'ai les résultats de Nintendo, je suis content. Hein.
Fait, le problème des actionnaires, c'est que c'est moins bien qu'avant avec la Wii, en fait. C'est surtout ça, parce que globalement, c'est pas si mal que ça. Effectivement, c'est quand même pas dégueu. Ils sont pas comme Sega qui était en perte sèche depuis plusieurs années avant d'abandonner. Quoi.
La Dreamcast, c'était quand même leur deuxième gros échec au moment où ils ont arrêté les consoles. Hein.
Alors, pour avoir refait l'historique récemment, donc je me permets de faire une deuxième parenthèse, parce que c'est vrai que j'ai refait l'historique de Sega.
Tu veux dire que c'est le troisième ou le quatrième, c'est ça ?
Non, mais en fait, quand tu regardes bien, le seul truc qui a jamais marché qui a vraiment marché pour
c'est
Sega, c'est la Mega Drive. En gros, parce que la Master System, ça...
L'arcade a dû être pas mal rentable.
L'arcade, oui, aussi, évidemment. Mais en ce qui concerne les consoles, que ce soit portables ou de salon, la Master System au Japon, ça a été un four. Sega Mark III, ça a jamais décollé. Aux États-Unis, ça a été un énorme four. Là, les seuls endroits dans la planète où ça a marché, c'est au Brésil et en Europe, où ça a pas trop mal marché, c'est-à-dire que c'était quand même pas extraordinaire. Ils avaient des parts de marché qui étaient, je sais pas, peut-être 50-50 avec Nintendo, mais difficilement plus, donc ça, c'était pas un échec complet, on va dire, mais c'était pas non plus extraordinaire. La Game Gear, ça a quand même été un flop, plus ou moins. La Mega Drive donc a été le seul vrai succès, et derrière la Saturn a été un flop à part au Japon, et la Dreamcast, à part aux États-Unis où ça n'a pas si mal marché que ça, enfin ça, dès que la PS2 est arrivée, elle s'est fait balayer quoi. Donc effectivement, quand tu regardes bien, Sega au final c'est pas une compagnie qui était très très bonne et qui a subi 2 échecs d'affilée qui l'ont fait tomber, c'est une compagnie qui n'a connu qu'un seul succès et qui a jamais réussi à renouveler. Voilà, c'était la parenthèse Sega. Donc Antic, je t'en prie, je te redonne la parole par rapport à la Dreamcast et à Sega et l'abandon de hardware.
Je crois que je suis complètement perdu. Je suis assez d'accord avec Syrah, ce sera pas avant au moins une ou deux générations. Et à mon avis, tant qu'Iwata sera au pouvoir, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'ils doivent l'abandonner ? Personnellement, j'estime que le hardware, c'est aussi ce qui permet aux jeux Nintendo d'avoir une telle finition et aussi un certain niveau de qualité. Ça reste quand même leur propre console, donc ils la connaissent mieux que les autres. Et ça se ressent dans la qualité générale des titres. Ben avant ou maintenant d'ailleurs. Enfin, beaucoup plus maintenant vu l'abandon des tiers. Et en moyen. C'est le truc dont je voulais parler tout à l'heure, c'était qu'est-ce qu'ils devraient faire plutôt après. Avec la fusion moi, des groupes hardware pour le portable et le salon, je serais pas surpris que la prochaine console aille encore plus loin que ce que proposait la Wii. Enfin, en tout cas, le fantasme qu'avait donné la Wii aux gens. C'est-à-dire que ce soit à la fois une console portable, à la fois une console de salon et à la fois une console portable, avec l'OS unifié, mais que finalement ta console soit la même et qu'avec un dispositif, ben, peut-être la manette justement, qui soit un peu plus compacte, tu puisses commencer ta partie sur ta console, aller dans les transports et avec le même support.
Bah regarde déjà l'allure de la 3DS XL, je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus au Gamepad que la première 3DS, donc est-ce qu'il se rapproche pas doucement d'une fusion, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne idée.
Je serais pas surpris qu'il le fasse, et à mon avis c'est surtout un truc en termes de... au niveau des équipes qui va devenir assez essentiel, parce que s'il faut de plus en plus de monde pour faire un jeu et qu'ils doivent faire des jeux sur deux consoles différentes...
Tu as tout un tas de problèmes techniques derrière, c'est-à-dire comment tu fais pour assurer une autonomie correcte tout en ayant des performances extraordinaires pour une console de salon.
Je suis pas ingénieur en R&D.
Ouais, non, c'est un sacré défi technique derrière, c'est intéressant, mais je veux dire, il y a vraiment un... Il y aura un coût énorme à jouer, je pense, dans ce genre de truc-là. Alors le seul problème, c'est que si elle fait pas téléphone portable en même temps, les gens en voudront pas, quoi.
Oh putain, mais les gens, ils me cassent les couilles.
Cher auditeur, tu n'es pas concerné par cette remarque.
Si, tu es concerné.
Cher auditeur au singulier ou pluriel ?
Non, au singulier. Au singulier.
Il y en a que 4.
Ah, dont 3 où c'est nous. sur les dernières déclarations d'Iwata, je sais pas si je le comprenais bien ou pas, mais c'est un passage où il disait qu'il voulait réutiliser un petit peu l'architecture de la Wii U pour les futures consoles. Et puis il avait l'air de dire aussi que actuellement on était dans une espèce de façon de faire où on faisait une console sous-entendu de salon. Par génération. Et j'ai eu une impression qu'il évoquait la possibilité d'en sortir plusieurs avec plusieurs puissances de calcul différentes. Et à ce moment-là, on pourrait rentrer dans une sorte de configuration un peu à la PC où tu choisis, soit tu choisis, soit il reconnaît hein, la puissance de calcul de la console et donc les graphismes s'adapteraient au support. Et donc finalement si tu remets ça en lien avec la fameuse rumeur de Nintendo Fusion où tu as la fameuse Fusion DS pour la portable et la Fusion Terminale, j'ai cherché là, pour la console de salon, si tu fais un seul jeu avec un seul kit de développement mais que ce même jeu se retrouve sur plusieurs consoles, tu pourras avoir déjà tu achètes une seule fois le jeu, bon ça cloche avec le Nintendo qu'on connaît, mais tu achètes ton jeu et tu peux y jouer à la fois dehors et chez toi avec des graphismes améliorés, mais dehors aussi avec des graphismes plus pauvres qui te permettent d'avoir de l'autonomie. Si on cherche un peu plus loin, une console premium qui affiche des graphismes super élevés. Disons que sur le discours d'Iwata, on entrevoyait en tout cas la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de console. Au moins portable et salon.
Et je précise que s'ils font ça avec des niveaux de puissance différents, faudrait que les mises à jour hardware puissent être faites par des Pikmin.
Mais ça c'est ton grand fantasme à toi. Ça. C'est pas le fantasme des gens. Les gens normaux ne font pas ça. Les gens normaux ne rêvent pas que des Pikmin viennent s'introduire. Bref, non, c'est pas le problème.
Tu préfères le faire à la main et t'amuser avec les câbles, c'est ça ?
Moi j'aime bien jouer avec des câbles. Je trouve ça triste le Wi-Fi, on peut plus jouer avec des câbles.
Bah t'en as un sur le secteur.
J'ai un Wi-Fi sur le secteur, c'est ça ? Je comprends pas. Je pense qu'on va s'arrêter là sur ce. C'est vrai que ce... peut-être qu'à l'E3 on aura une surprise. Ce serait bien. Ça m'étonnerait beaucoup.
Quoi. Moi, je veux bien parier de l'argent là-dessus.
Une surprise à l'E3 ? Nintendo à l'E3 ?
Une mauvaise surprise.
Moi, je veux bien parier sur le fait qu'on n'aura pas de surprise du tout.
Ah non, une mise à jour de Mario Kart 8 où il y aura des faux cadeaux de surprise.
Je veux bien que Reggie prépare son corps pour l'E3, parce que c'est vrai que c'était quand même mythique. Ce qui me ferait marrer, en fait, c'est de voir Iwata contre Reggie sur un truc de Wii Fit U. Ça me ferait, mais alors, grave triper. Genre la luge, tu sais, où t'as le cul sur le... Tu joues avec ton cul sur le Game Pass. Ça, franchement, mais ça me ferait ultra triper.
Mais ça a été décidé, ils font pas de conférence, là. Nintendo pour le 3.
Oui, je sais, ils font plein d'événements tout au long de l'E3. Bah voilà, mais j'espère qu'ils feront un événement où ils poseront leur cul sur une balance board dans le stand de Sony et ils feront un concours de voilà, c'est tout. J'ai le droit d'avoir des fantasmes aussi.
Ah oui, mais bon, à mon avis, il faut pas s'attendre à grand chose pour l'E3.
Non, mais tu casses le moral de ton.
Ah ouais, non, mais voilà, mais il faut s'y habituer.
Les,
hein.
les grosses conférences E3, c'est pour faire plaisir aux journalistes. Personnellement, je m'en branle. Peut-être de direct ou pas, ça changera rien pour moi tant que j'ai les jeux.
Ouais,
mais limite, il y aura pas de jeux non plus.
Limite, le Nintendo Direct, c'est mieux. Ouais, et la qualité de son est quand même au-dessus.
Et puis en plus, il y a Iwata avec un balai dans le cul.
Tout à fait.
Exactement.
C'est quand même important. Alors, si rare, puisque tu es parmi nous, c'est pas tout. Très très souvent,
la blague.
Je tiens à dire avant que vous me décevez quand même vachement, parce qu'il y en a jamais quand je suis pas là.
Attends, on essaye et à chaque fois ça plante, parce que tu es le roi de la blablague.
Ah oui, mais vous prenez un carambar, un truc. Cherchez blablague sur Google et vous en avez plein. Alors, la prochaine fois que je suis pas là et que je vous écoute, il faut faire un effort.
D'accord, on essaiera, maître.
Oui, maître.
Bon, allez, tu l'envoies, la Valda.
Une petite blablague.
Allez, alors, blablague.
Elle est raciste, et tu lances Tetris direct après.
Je lance Tetris direct, t'inquiète. Je te laisse la parole intégralement. Je dis au revoir à tous nos auditeurs. On va écouter la blablague quand même. Et dans 2 semaines. Alors maintenant, la blablague.
Alors c'est une gonzesse qui rentre dans une boutique de vêtements et donc elle demande à, bon elle essaye une robe et puis elle demande à la vendeuse vous trouvez pas que c'est un peu décolleté puis elle dit oh non ça va mais vous avez du poil sur la poitrine et puis elle dit bah non pourquoi c'est peut-être trop décolleté